Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 juin. 13 juin, journée ensoleillée, et c'est très bien puisqu'on est prêt pour démarrer cette nouvelle semaine d'émissions autour de l'actualité en Mayenne. Évidemment, toujours en compagnie d'Andy. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Bah très bien. Et toi, comment s'est passé ton week-end?
Ah ça va, j'ai un peu de coup de soleil là, mais on
ça
met
se
de la
voit pas à la
pré-soleil et ça
radio.
va aller.
Exactement. Ne pas oublier cette petite crème solaire. Mais voilà, un petit peu de prévention pour commencer cette émission. Très bien. Le soleil, c'est bien, mais la crème solaire, c'est mieux. Super. Je suis pas sûre qu'on me prendrait pour faire les pubs pour la crème solaire. Mais bon, on va pouvoir avancer. En tout cas, dans cette émission, on va pas parler que de crème solaire. On va parler aussi de robotique avec les élèves de Cran et d'ailleurs qui étaient réunis la semaine dernière pour justement des défis. Et vous l'entendrez, ils arrivent aussi à apprendre d'autres choses qu'ils auraient pu apprendre en cours de manière plus classique. Mais là, par ces défis RoboRave, on va rester un peu dans la même ambiance hein, avec les élèves au lycée, pour le coup, de l'atelier sciences du lycée Douanier-Rousseau à Laval, qui ont travaillé depuis 2 ans autour d'un projet sur le gel possible d'une bulle de savon, un projet qui va les emmener très loin puisqu'ils seront aux Pays-Bas en septembre prochain. Ils nous racontent cette aventure. Et puis, on va commencer, là aussi, lundi, nouveau feuilleton, juste avant la marche des fiertés prévue samedi à Laval. C'est l'occasion notamment de se pencher aujourd'hui sur le travail effectué par la Gomme 53 avec Mathéo, puisque ce feuilleton là aussi est signé Mathéo. Mais d'abord, vous le savez, on commence par un point sur l'actualité en Mayenne. Et un candidat, Andy, élu dès le premier tour et 2 duels après les législatives d'hier.
C'est Yannick Favennec qui sera le député de la 3e circonscription de la Mayenne. Le député sortant de la majorité présidentielle remporte le scrutin dès le premier tour avec 57% des voix devant la candidate de la NUPES Marion Dété qui a récolté elle 19,3% des voix. Dans la première circonscription, on aura un duel entre Guillaume Garot, le député sortant du PS qui obtient 49,6% des suffrages contre 23,6% pour Béatrice Mottier, la candidate de la majorité présidentielle. Enfin, dans la deuxième circonscription, c'est Géraldine Bagné qui arrive en tête avec 27,1% des votes. La candidate de la majorité présidentielle devra faire face à Grégory Boisseau de la NUPES qui a récolté lui 23,89% des voix. Christophe Langouette, le candidat indépendant soutien à Emmanuel Macron et Jean-Michel Cadenas du RN sont tous les deux éliminés. Et à noter aussi que l'abstention dépasse les 50% dans les 3 circonscriptions mayonnaises.
Et dans le reste de l'actualité, un plan canicule mis en place à Laval jusqu'au 15 septembre.
Ce plan est surtout à destination des personnes fragiles et isolées. Un registre de ces personnes est mis en place par le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Pour vous inscrire, vous pouvez appeler au 02 43 49 47 30 et un numéro au vert est également mis à disposition, le 0800 06 66 66.
Un accident impliquant 2 véhicules s'est produit hier à Chemazé.
Vers 19h20 sur la route départementale 20, 6 personnes se trouvaient dans les 2 véhicules et 5 ont été blessées et transportées à l'hôpital de Château-Gontier. 19 pompiers ont été mobilisés et la circulation a été coupée le temps de leur intervention.
Le conservatoire de Laval déménage.
Il commence à partir d'aujourd'hui pour le pôle Laval, Scomam, Corbineau et Ribaudière vers le nouveau bâtiment Le 40. Pendant cette période de déménagement, l'administration reste joignable au 02 43 74 14 17 et au 02 43 74 14 28.
Les inscriptions pour le place de cet été, c'est mercredi.
Le plan local d'animation sportive pour la période estivale débutera le 11 juillet prochain jusqu'au 31 août. Les inscriptions se feront seulement ce mercredi de 17h30 à 19h par téléphone au 02 43 09 61 50. Vous pouvez déjà consulter le programme complet sur sport-chateaugontier.fr.
500 élèves réunis autour de la robotique. La 6e édition de la RoboRave France s'est tenue vendredi à Cran, au complexe sportif, organisée par la bien nommée association RoboRave, créée au sein du collège Volnay de Cran, avec plusieurs challenges au programme, de débutants à experts, pour tous les collégiens et même certains lycéens présents. Reportage auprès de la classe de 5e SECPA du collège Volnay, avec Cyril Gélin, président de l'association RoboRave et enseignant dans l'établissement en mathématiques.
On essaie de conduire le robot jusqu'au bout. À la fin, il faut qu'il pousse une balle dans le trou au milieu pour qu'il rapporte un maximum de points. Donc la difficulté, c'est que bah, les angles, s'ils sont pas parfaits, ça pénalise tout au long du parcours et à la fin, il y a quelque chose qui va pas. C'est dans ce contexte-là que j'ai appris à faire une moyenne, ça je m'en rappelle.
Bah moi, j'aime bien que les rebots, on les fait rouler et en plus, c'est une passion, je trouve qu'on y arrive et surtout de gagner. En maths, on faisait aussi des une seconde, combien il fait de kilomètres et tout ça. Et il faut être fier de soi pour quand on y arrive.
Bah, je ne m'étais pas vraiment intéressée avant de faire ça. Mais du coup, c'est pas mal, ouais. La découverte du robot et tout, comment c'est fait et tout, c'est pour faire des connaissances aussi, venir ici.
À travers la robotique, en fait, on travaille plein de compétences. Hein. Tous les challenges se font déjà par équipe. On y travaille l'anglais. Chaque équipe va rencontrer aujourd'hui un jury en anglais. On travaille des compétences, évidemment, d'informatique, de savoir se présenter. On a un projet Erasmus au sein du collège, toujours dans le cadre de la robotique, qui a permis, avec des élèves de 3e qui participent aujourd'hui au concours, d'aller en Bulgarie pour certains il y a 3 semaines, ou en Lituanie l'année dernière. Et puis après, voilà, il y a une filiation, ils continuent au lycée. Hein, l'idée, c'est de leur donner le goût et la volonté d'aller plus loin. Et aujourd'hui, on a des projets de lycéens, donc notamment au niveau du concours InnovBot. Donc certains participent au challenge, on va dire, un peu plus classique, et d'autres sur des projets où ils présentent vraiment une idée qu'ils ont eue de comment utiliser la robotique de façon intelligente, éthique. Bon, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut derrière. C'est un travail qui doit être amené à mobiliser ses compétences en anglais. Donc on a notamment beaucoup de filles. L'idée, c'est de faire voilà, découvrir un peu, de faire venir les filles aux sciences. On a beaucoup de filles qui viennent à la robotique parce que les copains sont allés les chercher en disant on galère un peu en anglais, est-ce que tu peux venir nous aider? Et puis en fait, c'est elles qui prennent goût à la robotique et à l'informatique à travers ce projet. Donc c'est voilà, réussir à mettre en commun toutes les compétences qu'on a, être aussi capable. Ce matin, on a eu le jury InnovBot, ce sont des professionnels qui viennent, des entrepreneurs, des enseignants aussi. Et donc voilà, de mettre en avant un projet, essayer de le vendre, on va dire, d'essayer de convaincre des gens que l'idée qu'on a est bonne. Puis petit à petit, comme ça aussi, découvrir le monde de l'entreprise.
Et certains élèves se sont même rendus en novembre dernier à Tahiti pour une initiation à la robotique. Chaque élève est volontaire pour cette option tout au long de l'année, en suivant 1 heure de cours en plus toutes les 2 semaines.
Et on va passer à l'interview des lycéens de l'atelier Sciences au lycée Douanier Rousseau, qui iront prochainement aux Pays-Bas pour présenter leurs recherches. On les écoute juste après Paradigme de la femme.
J'ai envie de courir et de pleurer.
vient d'écouter La Femme avec Paradigme dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio et on va très vite entendre les lycéens mayennais qui vont se rendre bientôt aux Pays-Bas pour présenter leurs recherches autour d'une bulle de savon. Les 6 élèves de l'atelier sciences du lycée du Douanier Rousseau à Laval ont été qualifiés pour un prestigieux concours scientifique. Ce sera donc aux Pays-Bas en septembre prochain. Ils y présenteront leurs travaux en anglais autour de cette question: peut-on faire geler une bulle de savon? C'est la jolie conclusion d'un travail mené depuis 2 ans qui leur a beaucoup apporté pour la suite.
Et moi du coup c'est Zoé, je suis en terminale avec les spécialités maths et physique-chimie.
Moi c'est Jamila, spécialité maths, physique, option maths experte.
Je m'appelle Florian et je suis en spécialité physique-chimie et arts plastiques.
Moi c'est Mathilde, du coup aussi spé maths physique.
Moi c'est Rémi, maths physique.
Moi c'est Daniela, spécialité maths physique et option maths experte.
Donc c'est un endroit où on cherche sur pas mal de sujets différents, il y a eu pas mal de groupes avant nous, et nous ici on cherche sur le sujet « peut-on faire geler une bulle de savon ?». Maintenant on sait que c'est oui, et on cherche plutôt comment ça gèle et quels sont les paramètres pour la faire geler. Bah, du coup l'idée elle nous est venue parce qu'on a vu des vidéos sur internet qui montraient le gel des bulles, mais c'était au Canada, au Groenland, etc. Et nous on s'est dit « on va faire ça en Mayenne, dans notre atelier », et du coup voilà, on s'est lancé là-dedans.
Ça s'est fait par étapes. Au début, on a changé juste la porte du congélateur. Et puis, on n'y arrivait pas, donc on a trouvé des solutions. Et on a un autre dispositif.
Au départ, on était dans un congélateur, sauf que ce n'était pas pratique pour observer. Et puis, même si on a remplacé la porte pour en mettre une transparente, ça restait compliqué de manipuler à l'intérieur de l'extérieur. Donc, on a décidé de créer une extension dans laquelle tous les paramètres soient... réunis pour geler les bulles au mieux, donc l'éclairage, le froid et puis une fenêtre d'observation. Alors faut imaginer un congélateur en forme à peu près cubique et en face de lui donc un tube en verre, enfin en plexiglas, d'à peu près 50 cm de long, une dizaine de centimètres de diamètre, dans laquelle on peut entrer un petit tube et gonfler les bulles.
Au début, on était vraiment à l'intérieur du congélateur, mais les résultats n'étaient pas très concluants parce que quand on ouvrait le congélateur, la bulle s'est éclatée et il y avait plein d'objets à l'intérieur du congélateur. Donc au début, vraiment, on n'observait rien du tout. C'était vraiment, on voyait juste l'empreinte de la bulle, c'est ça. Et puis à partir de notre... tunnel, c'est là où on a vraiment pu observer avec une caméra qu'on place juste devant la fenêtre d'observation. Et c'est là on a pu observer les cristaux aussi, les bulles. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, on était émerveillés, si on peut dire ça, parce que c'était pas facile. C'était vraiment pas facile, 2 ans comme ça, parce qu'au début, vraiment, on était vraiment braqués sur notre congélateur. On n'avait pas cette idée de faire une extension. C'est venu vraiment après plusieurs erreurs qu'on s'est dit... qu'est-ce qu'on doit vraiment faire pour arriver à observer notre bulle? Et puis après, avec plusieurs essais, on a réfléchi ensemble. On a dit que c'est peut-être la meilleure idée de faire sortir la bulle du congélateur.
Et donc
oui, c'est ça. On l'a fait sortir, on a pu observer. C'était vraiment magnifique.
Du coup, il y a eu 3 principaux concours. Donc, les Olympiades de physique. La première partie, c'était à Poitiers et ensuite à Paris-Saclay. La finale, on a remporté un premier prix national. Ensuite, du coup, il y a eu Fête de la Science, pareil, en 2 étapes, académique et nationale. Première partie à Angers et seconde partie à Amiens. Et donc récemment, enfin, Fête de la Science aussi, c'était plus récemment. Donc le concours, c'est génial. Donc là, on n'était que 3. C'était en visio. Et donc, on a été sélectionnés pour représenter la France à E6 en septembre aux Pays-Bas.
C'est une compétition européenne dans laquelle sont décernés des prix aux différents groupes venant de tous les pays d'Europe, des fois des grosses sommes d'argent qui peuvent être données aux jeunes. Enfin, il y a beaucoup de moyens quoi, dans ce concours. C'est un concours prestigieux européen.
Pour être sélectionné, on avait eu quelques questions en anglais à la fin et tout. Mais là, ça va être toute la présence, tout en anglais. Mais il faudra se débrouiller. Quoi. Ouais, c'est plus complexe. Après, tout le monde sera comme nous. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a touché un petit bout du monde de la recherche, parce qu'on avait toujours on cherchait quelque chose, on avait un problème, on trouvait une solution, on s'informait, on a rencontré plein de gens, on a discuté avec plein de gens. Moi j'ai bien aimé cette partie-là, pouvoir rencontrer, recevoir des conseils d'adultes, de chercheurs qui s'intéressaient à notre projet. Et ça, je trouve que c'était vraiment bien.
En fait, c'est un projet qui nous emmène assez loin. On est assez fiers de où est-ce qu'il peut nous porter, de où est-ce que nous, on peut porter le projet. Et on touche à plein de domaines scientifiques différents. On s'éloigne un petit peu de l'aspect basique des cours, etc. Bah, en fait, c'est largement différent. On manipule beaucoup plus. On est vraiment dans un aspect de recherche. On va faire des erreurs. On va revenir en arrière. On va chercher nos propres idées. On est guidé par notre professeur, évidemment, mais on va nous-mêmes trouver des idées, pousser dans la recherche, découvrir des notions qu'on n'a pas en cours. Là où en cours, on va écouter un cours, etc. Donc, on est vraiment poussé dans la recherche là. Et c'est quelque chose de plaisant qui nous habitue aussi à ce qu'on peut faire plus tard. Ça nous guide vers des domaines aussi plus tard. Moi, personnellement, je vais aller vers l'électronique. C'est surtout ce à quoi j'ai touché dans le projet, justement. Du coup, ça crée des passions aussi.
Bah, j'ai appris beaucoup de choses. À travailler aussi en autonomie, en recherche. Et, oui, à travailler en groupe aussi. À présenter un projet à l'oral. Du coup, on avait des vidéos à faire. Donc, préparer une vidéo, faire le montage. Et puis aussi un peu de communication. Parce que du coup, on a un site internet, on a un compte Instagram. Donc, il faut actualiser tout ça, mettre à jour. Pas mal de choses. Et c'est une bonne expérience. J'aimerais bien me tourner vers la recherche dans l'agroalimentaire. Et du coup, ingénieur recherche et développement en agroalimentaire.
Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très formatrice, que ce soit par les différentes thématiques abordées sur le plan scientifique, toutes les rencontres, et puis aussi les concours, les présentations, les comptes rendus écrits. Il y a eu des fois des moments plus stressants, des moments de fierté. On a tout de suite vu différentes facettes du projet, donc par exemple mesurer la température, éclairer la bulle, refroidir la bulle, etc. Et donc on s'est divisé un peu le travail, mais ça s'est fait un peu naturellement. Et puis ça n'empêche qu'on peut changer des fois. Par exemple, Mathilde faisait beaucoup de bricolage. Ça m'arrive des fois de faire du bricolage. On touche un peu à tout, mais...
Pour moi, je dirais que ça m'a rendue plus polyvalente parce que, comme l'a dit mes amis avant, c'est vraiment un projet qui nous a déjà fait sortir des cours en soi théoriques. On est plus allé dans la pratique. En plus, c'est pas aussi que les cours. On a touché au domaine du bricolage, du ménage, mais vraiment, en fait, c'était quelque chose de très grand. On n'est pas resté que sur des matières scientifiques. Et personnellement, moi, ça m'a permis d'alimenter mon envie de travailler dans la recherche. Parce que j'ai toujours voulu travailler dans la recherche, mais je ne savais pas encore dans quoi. Maintenant, je me dis, j'aimerais bien travailler dans la pharmacie, essayer de mener un projet à bout, commencer, parce que ce n'était pas vraiment facile. J'ai vu, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, arriver à trouver des solutions à toutes les erreurs qu'on a rencontrées. Donc c'est vraiment un projet, ça m'a quand même changé la vie, on peut dire ça. C'est vraiment une très belle expérience et je conseille aux jeunes, s'ils ont l'opportunité de participer à un projet comme ça, de ne pas hésiter. Parce que c'est vraiment quelque chose de très, vraiment au début, sans mentir, au début, quand on était dans notre atelier, on ne sentait pas l'ampleur de notre projet. Parce qu'on était là, on était 6 élèves en train de faire de bricoler un congélateur. Quand on est arrivé à Poitiers, on avait peur. On était là, si on n'arrive pas. Mais les jurys, ils étaient vraiment passionnés par ce qu'on avait fait. Et ça nous a donné du courage. On a vraiment dit, mais on fait quelque chose. C'est vraiment quelque chose, on dit que ça a de l'ampleur, pas que entre nous, mais envers aussi des grandes personnes, genre des personnes qui sont dans la recherche, des gens qui ont passé des années et tout à faire ça. Donc c'était vraiment incroyable.
Pour moi, ça a été difficile au départ parce qu'il faut savoir que je suis arrivée en France il y a 2 ans. Et du coup, on va dire que maintenant, après 2 ans de travail et dans l'atelier, je vais dire que j'ai acquéri une certaine aisance à l'oral, déjà pour commencer. Et ensuite, on a appris des choses, que ce soit dans la science ou pour travailler en groupe, etc. Et c'est vrai que ça a été difficile, comme ils l'ont dit, on a stressé et c'était pas... Surtout moi, je stresse beaucoup. Mais on a toujours été récompensés, donc on avait toujours du courage pour faire autre chose, pour continuer le projet. Donc là, je suis contente de tout ce qu'on a fait, je suis fière de nous. Et voilà, j'ai découvert comme quoi travailler en groupe, c'est plus facile et c'est bien. Et ça nous apprend plein de choses. J'ai appris des choses grâce à ce travail de groupe. Et aussi, c'est moins stressant. c'est, même si je stresse, c'est grâce à eux peut-être que j'ai pu faire ça. Mais c'était bien, c'est très bien.
Alors, je m'appelle Monsieur Michel, Patrice Michel, enseignant en sciences physiques donc au lycée Doyen-Rousseau et animateur de l'atelier sciences Rousseau depuis 2009. Alors, à chaque fois, effectivement, on travaille sur un projet dont l'origine vient des idées des élèves ou parfois donc d'un chercheur qui nous soumet une idée ou parfois c'est les élèves qui ont choisi parmi différentes pistes. Et donc, ils choisissent le sujet qui leur convient le plus, le mieux, qui les intéresse le plus évidemment et qui va les motiver. Je crois que c'est un ancien élève de l'atelier, David, qui a proposé ce projet, ou plutôt cette idée. Pendant le confinement, j'ai fait mon travail de débroussailleur pédagogique et scientifique, et donc j'ai essayé d'explorer la possibilité de faire travailler les élèves sur ce sujet-là. Après, je crois, passé dans les classes de mémoire pour proposer, et puis les 6 élèves là se sont portés volontaires. Je suis là en soutien et je fais beaucoup d'intendance. Je conduis, je vais dans les magasins, je reviens, j'amène le matériel. J'aiguille aussi parce qu'évidemment, il y a des directions qu'il est préférable de ne pas prendre. Hein. J'aiguille vers les meilleures directions et ils ont quand même la gentillesse de bien m'écouter. Alors, ils ont acquis beaucoup, à mon avis, de confiance. Parce que présenter, vous savez, un projet tel que celui-ci, qui est quand même ambitieux, à des chercheurs, à des inspecteurs, à des journalistes, c'est quand même un exercice qui n'est pas facile. Pour certains, ils vont le faire même en anglais très prochainement. Et là, pour la confiance, c'est évidemment un plus évident. Donc on les voit évoluer. En 2 ans, ils ne s'en rendent pas compte, là, ils sont devant moi, mais ils ont beaucoup évolué. Par rapport à leur confiance, par rapport à leur capacité, leur aisance dans l'atelier, ils savent se débrouiller, ils sont beaucoup plus autonomes, évidemment, qu'il y a 2 ans. Alors c'est très complémentaire. Évidemment, en cours, on ne peut pas leur laisser autant de liberté, malheureusement, parce qu'ils sont trop nombreux. Mais voilà, cet espace-là leur permet justement d'acquérir cette autonomie qui est vraiment un plus, qui est un plus, je pense, pour eux, pour l'avenir. Les retours sont évidents quand on a effectivement un parcours tel que le leur. À l'avenir, quand on a ça sur son CV, c'est une porte ouverte vers les stages à l'étranger notamment. Ou généralement, mais vous m'avez témoigné hein, que lorsque vous avez un entretien, il est souvent question de l'atelier scientifique. Hein, parce que les recruteurs, entre guillemets, voient cette ligne-là sur le CV et sont tout de suite interpellés. Donc, comment les échanges se font très rapidement sur leur travail à l'atelier. Alors, le projet était prometteur et je leur ai dit, au bout de quelques mois, que le groupe était très prometteur. Ils sont devant moi, ils vont être contents. Que le groupe était très prometteur et le groupe n'a pas été tout à fait conforme à nos espoirs. Oui. Parmi les anciens élèves de l'atelier, je ne sais pas si vous le savez, les élèves, il y a effectivement des camarades à vous qui sont devenus chercheurs maintenant. Il y a 10 ans, il y a des camarades à vous qui ont travaillé sur un projet autour de la transmission sans fil. Et j'ai un retour, évidemment, d'un élève qui maintenant est chercheur, exactement autour de ce qu'il avait travaillé ici. Exactement. D'accord ? Il vient de terminer sa thèse, ça y est, il est embauché en tant que chercheur. Donc c'est une grande satisfaction, évidemment. Donc j'espère que dans quelques années, vous serez des grands spécialistes mondiaux de des bulles qui gèlent, en fait. Qui sait ? On verra. Mais après, voilà, ce n'est pas une fin en soi que de devenir chercheur. La recherche véhicule quand même beaucoup de qualité, d'abnégation, de travail, évidemment, de patience, d'entraide dans une équipe. Et ça, ce sont des qualités qui sont évidemment utiles, quel que soit le parcours futur.
Les élèves en première l'année prochaine plancheront sur un tout autre projet pendant cet atelier sciences. Et pour suivre l'aventure des lycéens actuels, rendez-vous sur atelier sciences rousseau.fr.
Et tout de suite, le premier épisode du feuilleton de la semaine sur la communauté LGBT et la marche des fiertés, juste après I Want That Fire de Aaron Taylor. I'm
there's something out there for me. I want it. If there's someone I need to be, I'll be coming.
En douceur, c'était Aaron Taylor, I Want That Fire, dans la JT du local sur l'autre radio. Et puis on en a parlé en tout début d'émission lorsque je vous donnais le programme de ce qui allait suivre aujourd'hui. Cette semaine, Mathéo réalise un nouveau feuilleton sur la communauté LGBTQ et ce premier épisode se passe à la Gomme 53. Bonjour Mathéo.
Bonjour Marie.
Et donc oui, et tu nous parles de la Gomme 53 aujourd'hui.
Et oui, vu que ce mois-ci, c'est le mois des fiertés, donc on va direction la Gomme 53, la première association LGBTQ en Mayenne. Donc Julien Bestin, le cofondateur de la Gomme, nous explique le rôle de l'association pour accueillir les personnes LGBTQ.
La Gomme 53, c'est un jeu de mots, c'est une envie d'avoir une vision sociétale des choses et de dire qu'on veut effacer les différences, c'est-à-dire effacer les différences dans le quotidien, dans le regard des gens dans la rue, effacer les différences dans les textes de loi, dans la manière dont on perçoit les LGBT au quotidien. La base de l'association, c'est vraiment recevoir, c'est vraiment avoir un lieu identifié, c'est déjà important d'avoir un lieu identifié, qui a une vitrine aussi, d'avoir un lieu identifié pour recevoir les gens, quels qu'ils soient. Paradoxalement, ici, ou dans notre quotidien, on passe outre l'orientation sexuelle, donc on ne demande pas l'orientation sexuelle des gens qui rentrent, et du coup on peut y recevoir tout un chacun, quelle que soit son orientation sexuelle, à partir du moment où la bienveillance est là, histoire de ne pas gêner les autres personnes, de ne pas les rendre mal à l'aise, mais finalement que les personnes soient hétéro, homo, bi, etc., trans, voilà, quelle que soit la caractéristique autour des orientations sexuelles ou des transidentités, on reçoit les gens et on peut répondre aux questions pour enfin avoir une vision réelle des choses et qui ne soit pas juste théorique. Sur le dernier exercice, on était en moyenne 15 personnes par permanence. Et là, c'est vrai que plus les permanences avancent, on ne sait pas si c'est les mois autour de la marche des fiertés, si c'est l'effet confinement, si c'est... voilà, qu'est-ce qui fait ça? Mais on est plus près des 25 personnes maintenant actuellement en moyenne par permanence, avec parfois des rencontres hebdo qui frôlent les 30. Donc c'est vrai que c'est à la fois hyper intéressant, hyper valorisant, hyper agréable et à la fois assez intense à gérer aussi. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est un événement tellement divers. C'est à la fois un rassemblement pour lequel on fait venir plein d'autres structures. Je parle volontairement pas que d'associations. Vous verrez le jour J, il n'y aura pas que des associations. Donc on fait venir plein de structures. Donc ça sous-entend du matériel pour accueillir ces gens. Ça sous-entend une organisation aussi parce qu'il y a des structures qui viendront de loin. Donc on leur mâche le travail, si j'ose dire, sur les endroits où ils vont pouvoir se poser, dîner, boire un verre, etc. C'est une réflexion sur le parcours qui doit, au fur et à mesure de la découverte des petits événements, s'adapter, parce que quand on a un camion comme char ou quand on a un gros véhicule comme char, c'est pas le même parcours. C'est donc prévoir le parcours, prévoir la sécurité, anticiper sur le nombre de bénévoles qu'on va pouvoir avoir. On a certes choisi de déléguer la soirée à des professionnels dont c'est le métier, mais il faut aussi travailler un petit peu ce côté-là. Tout l'aspect communication, tout l'aspect comptable, l'aspect trésorerie, tout en maintenant l'activité du quotidien de l'asso. Ouais, c'est assez sport, ouais, mais c'est hyper intéressant à la fois. Ouais. on utilise le mot de marche des fiertés, qui est le nouveau nom pour Gay Pride, mais que c'est à nos yeux avant tout une marche contre l'homophobie. Notre démarche, c'est vraiment un travail de territoire pour montrer que la Mayenne, elle va au-delà de l'image qu'on en a, que la Mayenne, elle est diverse, elle est solidaire. On a un superbe accueil des commerçants quand on vient placer nos affiches et on a bon espoir que les Mayennais se retrouvent en nombre autour de nos valeurs de lutte contre l'homophobie pour enfin montrer notre vrai visage de notre territoire.
Et donc, il y a une marche de fierté pour la première fois à Laval qui commence samedi à 14h au Square de Boston.
Merci beaucoup Mathéo. Est-ce qu'on a quelques petites infos pour le sujet de demain, de l'épisode de demain ?
Eh ben demain, ça sera un témoignage.
Très bien.
Je n'en dis pas plus.
Super, c'est bon, le teasing est fait, impeccable. Merci beaucoup en tout cas. Merci Mathéo, merci Andy aussi pour cette émission qui, ça y est, touche à sa fin. À demain.
À demain Marie.
Et évidemment, donc vous restez avec nous puisque les émissions se poursuivent sur l'autre radio. Évidemment, à 19h ce soir, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de Morgane. Et nous, on se retrouve demain midi. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée.